C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canalem, édition 109 du 24 mars 2025. Au sommaire aujourd'hui, un dossier sur l'industrie du sexe dans nos communautés, avec un créateur de contenu, Charlie Wilinski, contenu qui est souvent repiqué par une des plateformes qu'on appelle Pornhub, sans pour autant recevoir une compensation pour l'utilisation. Mais justement, trois journalistes du Journal de Montréal publient L'Empire du sexe, un livre sur Pornhub, notamment sur sa modération déficiente qui a permis la diffusion de pornographie infantile et de séquences vidéo non consenties. Nous recevons le journaliste Jean-François Cloutier, qui est un des auteurs. Semaine de la diversité sexuelle et de genre à l'Université du Québec à Montréal, et c'est le segment Culture Queer.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis-Martin Chabot.
Charlie Wilinski est créateur de contenu pour adultes et travailleur du sexe. Artiste de contenu pour adultes, il est aussi un homme d'affaires avisé. Bienvenue, Charlie Wilinski, à l'émission.
Bonjour.
Chaque fois qu'on a une nouvelle personne au micro, on lui demande quel accord tu utilises et quel pronom.
Le pronom « il ».
Parfait. Comment es-tu entré dans l'industrie du divertissement pour adultes, qu'on pourrait dire de la pornographie?
Disons que depuis mon éveil sexuel, là, j'avais toujours été attiré par ça. Puis à un moment donné, après moi j'étais dans le domaine la coiffeur en fait pendant une dizaine d'années, puis j'ai senti le besoin de changer. Puis je me suis dit, ça m'a toujours interpellé, donc pourquoi pas tenter mon coup.
J'ai beaucoup lu d'entrevues qui ont été faites avec des personnes qui travaillent dans l'industrie, puis on dit toujours que c'est des gens qui font ce qui les passionne. Est-ce qu'on peut se passionner à ce point d'avoir des relations sexuelles?
Tout à fait. Ben, en fait, oui, mais aussi, c'est une industrie qui est fascinante à tous les niveaux. C'est une industrie comme toutes les autres, finalement, aussi. Oui, définitivement. Puis ça touche tout le monde, finalement.
Là, je suis juste curieux, quand on te demande, ta famille ou tes amis te demandent qu'est-ce que tu fais pour gagner ta vie, qu'est-ce que tu réponds?
Mon Dieu, bonne question. Ouais. Je vais répondre, je travaille dans l'industrie pour adultes. Généralement, les gens vont tout de suite penser ça pour nous, mais je veux dire, moi, je fais pas que non plus que jouer. Je touche un peu à tous les niveaux de l'industrie.
Est-ce que tu te produis aussi? Tu n'as pas de boîte de production?
Oui, j'opère des sites web, je loue des luttes. Tournage, donc je touche un peu à tous les niveaux.
Alors, comment obtiens-tu ton revenu de tout ça? Comment ça fonctionne?
C'est un peu un amalgame de tout ça, en fait. Par les plateformes de contenu indépendant, par des contrats avec certains studios, puis aussi par ma boîte, en fait, en opérant justement... des services de production puis de post-production pour des créateurs indépendants.
Tu as diffusé des productions sur Pornhub, tu as déposé des trucs là. Oui. Comment ça s'est passé?
Oui, tout à fait. Moi, je trouve quand même que c'est une... Il y a quand même des real guards, excusez l'anglicisme, mais il y a quand même certaines mesures qui sont mises en place pour prévenir que toutes sortes soient... Là, par rapport à d'autres plateformes dans le monde. Mais c'est pas toujours évident, dans le fond.
Est-ce qu'ils t'ont payé?
Non, je dois dire. En fait, tout ce qui est Pornhub directement, je dirais pas ça de l'entreprise mère de Pornhub, par exemple. Ouais. J'ai travaillé pour des studios qui appartiennent à MindGeek, qui est maintenant Halo. Ouais. Puis à ce moment-là, je dirais même que c'est des studios parmi ceux qui ont quand même encore les pratiques les plus respectueuses de leur modèle.
T'as une autre source de revenus?
Oui.
Qu'est-ce que tu fais?
Du travail du sexe, en fait, mm-hmm. un peu. C'est relativement complémentaire, je veux dire.
Ouais. C'est ce que ça paye, vraiment?
Oui, tout à fait. Je dirais que, l'escorte, c'est money right now.
Donc, ah oui?
L'argent maintenant.
Ouais.
Mais à terme, c'est sûr que c'est plus le contenu qui est...
Parce qu'à un moment donné, on est plus vieux, puis on n'est plus aussi beau, puis c'est plus difficile.
Tout à fait. Tout à fait.
Tu vas te sortir ça demain.
Non, mais c'est quelque chose à quoi il faut penser, c'est certain. Là.
Bon, dans l'industrie du sexe ou de l'industrie pour adultes, qui inclut, à mon avis, aussi le travail du sexe, il y a quand même, c'est pas toujours tout le monde qui se trouve dans une situation comme la tienne où tu t'exploites toi-même. Il y a des gens qui se font drôlement exploiter, puis je peux... Est-ce que tu as vu ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà vécu, toi?
Non, en fait, ça, pas du tout. Puis j'en ai pas vu de près non plus. Par contre, je pense qu'aussi, c'est quand même... Dans l'industrie des hommes gays, c'est ouais. quand même une, très différent de... Tu sais, là, malheureusement, de l'industrie des femmes. Je dirais ouais. que... Il y a beaucoup moins de coercition, il y a beaucoup moins... Tu sais, c'est pas aussi... tu sais, c'est très empowering, en ouais. fait, parce que on gère nous-mêmes, c'est, puis généralement, c'est gratifiant, là, tu sais, ouais. à plein de niveaux. Mais non, j'ai jamais été témoin ou quoi que ce soit d'exploitation, là, dans, du moins dans l'industrie gay. Là.
Donc, est-ce que tu gagnes bien ta vie?
Ben tout à fait, tout ouais. à fait. Mais je suis assez... j'ai toujours eu un peu une prime entrepreneuriale, donc c'était sûr que ça, c'est pas en attendant des contrats qu'on va faire quelque chose d'intéressant, mais en tout et partout, oui, certainement, certainement.
Puis ton chum, il dit quoi de ça, lui?
Mon chum, il m'a super gros encouragé là-dedans. Je l'ai rencontré, comme j'étais en train de transitionner là, de milieu de travail, puis... lui, je pense qu'il aurait toujours voulu faire ça, secrètement. Donc, il m'encourageait là-dedans, puis il a toujours été un support vraiment extraordinaire.
Fait que la pornographie chez les hommes ou le travail du sexe chez les hommes, c'est il y a moins de coercition qu'il peut en avoir chez les femmes. J'imagine qu'il y en a quand même un peu, mais peut-être pas autant.
J'imagine. Je n'aurais pas la prétention de dire qu'il n'y en a pas, là. Mais peut-être pas en Occident, ou peut-être pas...
Là, je dirais pas ton âge. Tu es quand même une trentaine, je peux dire?
Ouais.
T'es encore mince, t'es encore bel homme. Ça va durer combien de temps, tu penses? Puis après ça, tu vas faire quoi?
Mon Dieu, c'est une excellente question. Ben, quand je suis arrivé à 30 ans, justement, je me suis dit, oh mon Dieu, je paniquais, je me disais, c'est fini. Mais non, en fait, j'avais bien y pensé. Là, mes collègues qui sont au sommet de leur carrière, généralement, ils sont fin trentaine, là, je dirais. Ouais. Plus. Fait que, bon, il y a ça. Mais en même temps, moi, je transitionne de plus en plus quand même vers la production, exactement. Puis, dans le fond, les services à d'autres.
Je suis allé me promener en fin de semaine sur Pornhub, je voulais voir ce qu'il y avait de disponible maintenant parce qu'il y avait eu du ménage qui a été fait.
Oui, oui.
Et j'ai vu beaucoup d'hommes de mon âge qui font de la pornographie.
Ah oui, bien, tout à fait. Écoute, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Puis souvent, moi, je vais suggérer à certains gars, justement, « Hey, t'as jamais pensé de faire ça? » Puis ils sont comme « Ah ben non, je vais me trouver pour ça. » mais concrètement, là, on n'a pas conscience à quel point il y a beaucoup de monde sur Internet puis qu'il y en a pour tous les goûts puis que l'important, c'est d'être bien dans sa peau, finalement.
Je vais te demander de faire un commentaire sur l'industrie de la pornographie parce que nous, la prochaine entrevue, on va peut-être dire des choses qui sont moins intéressantes. Mais qu'est-ce que tu dis aux gens qui disent « Bon, ça n'a pas de bon sens, Charlie, fais pas ça. »
Ah, mon Dieu. Ben en fait, il y a toutes sortes d'arguments. Mais je veux dire, moi, je me demande même pourquoi j'ai pas fait ça avant. T'sais. J'ai pas... en fait, même point de vue... T'sais, les gens justement qui réagissent par rapport à quand je vais dire ce que je fais dans la vie, c'est pas un choc comme ça que je vois, mais c'est plus de la fascination. Mmh. Généralement, ils vont te poser une question, puis là, ils vont s'excuser de te poser d'autres questions, puis OK, mais là, j'arrête après ça, puis tu sais, regarde, moi, je peux en parler longtemps.
Tu fais pas slut shaming comme ils disent en bon anglais.
Okay. Non, pas du tout. Mais j'ai quand même un discours qui est peut-être aussi plus, un peu plus large que juste aussi la personne qui fait que faire, dans le fond, qui enchaîne les tournages.
Charlie Wilinski, merci beaucoup.
Ben, ça me fait plaisir.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis-Martin Chabot.
Une vaste enquête journalistique dévoile les pratiques controversées de Pornhub et les nombreux scandales qui jalonnent son histoire. Durant des mois, les journalistes d'enquête, Jean-François Cloutier, Nora T. Lamontagne et Nicolas Brasseur, ont tout mis en œuvre pour vérifier si les rumeurs les plus folles qui circulent au sujet de ce géant de la technologie sont fondées. Mais ça a l'air que oui. Ils ont fouillé en profondeur le passé de l'entreprise, analysé la nouvelle structure en place. Ils ont cherché à comprendre comment cette entreprise a pu prendre le contrôle de l'industrie de la pornographie en offrant du contenu bafouant les lois et ce, sans jamais être embêté outre mesure par les autorités. Fait que nous recevons Jean-François Cloutier. Bienvenue à l'émission, Jean-François.
Merci.
Alors, je pose la même question à toi. Quel pronom, quel accord on utilise?
Masculin? Oui, avec il.
D'accord. Ce livre fait près de 400 pages, si on inclut les références. Ouais. C'est quand même important. Je ne suis pas allé toutes les lire, je n'avais pas le temps. Mais on sait que ça veut dire que ça a été référencé, vous avez sourcé votre travail. Alors, je vais te demander de résumer 400 pages en quelques phrases. Qu'est-ce qui ne va pas avec Pornhub?
Bien, beaucoup de choses. En fait, nous, ce qu'on expose notamment, c'est que dès le début de Pornhub en 2007, ce site-là a été bâti vraiment sur le piratage. Je pense que ça, c'est complètement inédit. On était capable de démontrer vraiment que la compagnie était vraiment impliquée dans le piratage massif là, de production payante porno, en fait. Et c'est comme ça que Pornhub a pris un peu son envol. Ils n'étaient pas les seuls, évidemment, à faire ça au début. Il y avait d'autres sites de tubes qui faisaient la même chose. Mais quand même, c'est parti un peu sur la base qu'on a violé le droit d'auteur de production pornographique. Puis par la suite, bien, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'autres problèmes, là, des problèmes de modération notamment, vraiment importants. En fait, le site est devenu très, très gros et c'était dans le top 10 des sites les plus visités dans le monde. Et il y avait seulement au maximum 80 modérateurs donc qui se relayaient pour modérer là, toutes les vidéos qui étaient mises sur le site. On parle d'un quota d'entre 600 et 1200 vidéos par modérateur, par quart de travail à visionner et à approuver.
Donc, on sait qu'ils ne visionnaient pas tous, hein?
Bien, ils prétendaient. La compagnie prétend que toutes les vidéos étaient vues par un humain avant d'être mises sur le site. Sauf que là, dans ce cas-là, on se demande comment ça se fait qu'il y avait des enfants prépubères, comment ça se fait qu'il y avait des vidéos de choses là, clairement problématiques, quasiment des viols en direct, tout ça qui était mis sur le site. Donc vraiment, soit qu'on a tourné vraiment les coins ronds ou soit que toutes les vidéos n'ont pas été vraiment visionnées.
C'est pas mal troublant ce que vous relevez dans ce livre-là. Moi, j'ai lu des histoires, j'en avais entendu parler, j'avais lu dans les journaux, mais là, vous avez interviewé les personnes qui ont été victimisées. Parlons d'abord des enfants, c'est incroyable, la pornographie juvénile qui était là-dessus.
Oui, bien, il y a le cas bien connu là, qui avait été rapporté dans le New York Times, dont on parle dans le livre, là, évidemment, c'est Serena Flaites, qui est une jeune Californienne. C'est son copain de l'époque qui avait demandé des vidéos quand elle avait 14 ans. Et les vidéos se sont retrouvées sur Pornhub et ça a été très difficile pour elle de faire retirer les vidéos.
Mais une fois qu'il était retiré, ça revenait parce que d'autres personnes postaient le...
Exactement, parce que dans le fond, Pornhub, jusqu'en 2020, il y avait un bouton de téléchargement pour toutes les vidéos. Donc, si quelqu'un regardait une vidéo, l'aimait, pouvait la télécharger, la garder dans son ordinateur par après. Donc, même si Pornhub, à un moment donné, retirait la vidéo du site, bien, il y a des utilisateurs qui avaient encore la vidéo chez eux. Donc, les vidéos pouvaient revenir sous une autre forme ou aller sur d'autres sites. Donc, une fois qu'une vidéo problématique se retrouve sur Internet, c'est extrêmement difficile de la faire disparaître. Ces vidéos-là sont souvent populaires parce que les gens sont attirés par des choses un peu extrêmes, un peu limites. Et donc, il y a des victimes. On parle notamment du cas dans le livre aussi d'une Albertaine qui tente encore aujourd'hui de faire retirer des vidéos. C'est ça, les vidéos sont extrêmement difficiles à faire retirer. Là.
Il y avait un site où on mentait aux jeunes femmes. On les faisait venir en avion quelque part pour tourner. On leur mentait. Et là, elle se faisait littéralement violer. On parle d'elle n'était plus consentante. Puis on sait que le consentement, ça peut se retirer à tout moment dans une relation sexuelle. Et ces personnes-là ne peuvent rien faire.
Oui, ça, c'est un des cas les plus épouvantables, qui est d'ailleurs bien documenté, parce qu'il y a eu des admissions là-dedans de la compagnie mère Halo, là, en fait, qui ont reconnu qu'il y avait eu des problèmes. Le cas de Girls Do Porn, dans le fond, qui est un producteur, en fait, soi-disant un producteur légitime, qui faisait signer un contrat, mais il ne donnait pas la chance aux personnes qui signaient le contrat de vraiment regarder ce qu'elles signaient. Et effectivement, il y avait tout un stratagème pour amener des filles très jeune, souvent, il y en a une même, je crois qu'elle avait 18 ans, ils ont tourné la vidéo quand elle fêtait ses 18 ans ou le lendemain, donc elle soufflait sur un gâteau d'anniversaire, donc c'est extrêmement jeune, et elle se faisait attirer comme quoi c'était pour du mannequinat un peu, des séances photo, mais rien de si problématique, et finalement, quand elles arrivaient là, elles arrivaient souvent dans une chambre d'hôtel, on leur donnait de l'alcool, on leur faisait signer un papier, puis on leur disait, bon, mais ça va être pour un tournage, finalement, c'est une production porno. Cela dit, la vidéo ne sera pas vue par grand monde. C'est pour un riche collectionneur, je crois, en Australie. Où ça va être pour des marins, donc c'est une collection privée. Il n'y a pas à vous inquiéter. Donc, finalement, les filles finissaient par faire les vidéos. Et en bout de ligne, par la suite, la vidéo est envoyée sur Internet à peu près tout le monde, même à des proches de ces filles-là. Et ça se retrouvait aussi sur Pornhub. Et c'était dans les vidéos les plus populaires sur Pornhub pendant longtemps, ça. Qu'a fait Pornhub pour... En fait, Pornhub faisait beaucoup d'argent avec ça. Et évidemment, on peut penser qu'il se disait, bon, ben, il y a un contrat qui a été signé, donc c'est correct. Mais En fait, il y avait vraiment de la coercition et les dirigeants de ce canal-là, de ce site-là, Girls Do Porn, sont en prison aujourd'hui là, parce qu'ils ont été accusés aux criminels aux États-Unis. Mais le rôle de Pornhub dans la diffusion de ces vidéos-là est vraiment
accablant. Et sentir avec pratiquement rien.
Pratiquement rien. Ça, d'ailleurs, c'est ça. Ils ont payé une amende de, je crois, c'est 1,8 million aux États-Unis en faisant certaines admissions. Mais
puis
c'est comme
site,
un accord
il va
de règlement.
Un milliard et demi en passant, là. Ça fait que, ouais.
C'est ça. Ouais. Fait qu'encore là, ils se sentirent bien. Puis c'est d'ailleurs ce qu'on écrit, nous, dans le livre. C'est que, tu sais, est-ce que c'est normal qu'avec tous ces abus-là, encore aujourd'hui, dans le fond, il n'y a pas grand-chose qui a vraiment été contre Pornhub, là. On parle de. Il y a des poursuites civiles, évidemment, très sérieuses, là, qui font leur cours aux États-Unis. Puis il y en a au moins une au Canada. Mais au niveau criminel, les dirigeants, la compagnie, le plus loin qu'on s'est rendu. Il y a eu des enjeux fiscaux en Allemagne aussi, il faut quand même le dire, mais à part de ça, il n'y a pas eu grand-chose pour la compagnie, alors qu'il y avait eu des abus qui sont documentés pendant des années, là.
Notre émission ici parle beaucoup des réalités queer. Est-ce qu'on a, je pense qu'on a trouvé des cas aussi de personnes de nos communautés qui ont été forcées de jouer dans des vidéos où ils étaient des enfants?
Oui.
Donc, c'est à tous les niveaux là, qui se passait quoi? C'est vraiment pas bien là, ce qui se passait là.
Non, ben c'est ça. Puis il y a un cas que j'ai en tête, là, effectivement, c'est un garçon qui est agressé. Je crois que c'est un garçon de 15 ans qui a été agressé par un adulte, là, puis ça s'est retrouvé sur Pornhub et c'était dans des vidéos très populaires. Donc il y a quand même. C'est sûr qu'on parle beaucoup de cas de femmes, mais il y a eu aussi des cas. Pornhub avait de la porno gay puis de la porno lesbienne aussi. Donc c'est pas. Je pense que ça peut s'appliquer aussi. À la porno LGBTQ là, dans ce cas-ci.
J'aimerais, il nous reste 20 minutes et demie. Est-ce que ça veut dire que la porno, c'est pas bon?
Bien, non, nous, d'ailleurs, c'était bien important. On ne voulait pas faire un livre anti-porno. Puis, tu sais, c'est souvent ça l'argument des gens chez Halo. Ils disent, bon, les opposants à Pornhub, c'est la droite religieuse, tout ça. Puis c'est pas faux à 100%. C'est vrai qu'il y a un courant de conservateurs qui embarquent sur ça et qui est plutôt là, vraiment anti-porno. Mais il y a quand même beaucoup de gens, beaucoup plus modérés. Puis on a parlé, moi j'ai parlé avec des opposants de la première heure qui sont des gens très, très libéraux. Une femme en Angleterre notamment, oui, qui a une vision très positive de la porno puis de tout ça. Puis elle a eu l'expérience de une de ses amies s'est retrouvée sur Pornhub. Donc je pense qu'il faut quand même départager tout ça. Puis je pense que peu importe qu'on soit contre ou pour la porno, je pense en tout cas qu'on devrait s'entendre sur un minimum de balises, c'est-à-dire qu'il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de personnes en bas de 18 ans, il faut s'assurer que tout le monde est consentant dans les vidéos, et malheureusement, ça n'a pas été le cas sur Pornhub pendant très longtemps.
Rapidement, Charlie, la pornographie?
Ah, mais en fait...
Rapproche-toi du micro.
Je pense que ça, ce serait un peu hypocrite de dire que ça pourrait ne pas exister. Ou...
Tant que c'est consentant.
Exactement.
Charlie Wilinski, créateur de contenu, et puis Jean-François Cloutier, journaliste. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci, ça fait plaisir.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
Deuxième édition de la semaine de célébration de la diversité sexuelle et de genre se déroulera du 31 mars au 4 avril à l'Université du Québec à Montréal. C'est organisé par les services à la réussite à la vie étudiante en collaboration avec le vice-rectorat à la recherche, à la création et à la diffusion et le groupe interfacultaire Queer UQAM. Cet événement donc constitue une occasion privilégiée pour les personnes membres des communautés de LGBTQIA+ et les personnes alliées de célébrer. Retenez bien le mot, parce qu'ils me l'ont dit tantôt avant d'aller en onde, célébrer, se rencontrer, apprendre et renforcer les liens qui unissent et définissent la grande communauté ucamienne. Bon, je venais par l'avoir. Alors, pour parler de tout ça, je reçois Evelyne McDuff, conseillère en équité, diversité et inclusion à l'UQAM. Salut. Ah, c'est toi. Salut.
Bonjour.
J'ai encore inverti les deux personnes. Ça, c'est l'âge, hein? Puis je vais le dire, je suis vieux. Et Sophie Dansereau, qui est conseillère à l'accueil et à l'intégration au bureau de l'inclusion et de la réussite étudiante à l'UQAM. Bienvenue à toutes les deux. On utilise quel pronom et quel accord?
Moi, il, elle ou elle, pronom neutre ou féminin, s'il vous plaît.
Parfait. Et toi?
Moi, Aël.
Oui.
Ah oui, Sophie. Aël et prenons accord neutre et féminin aussi.
Bon, il faut savoir qu'on est vraiment dans une drôle d'époque. Hein? On a un vent très intolérant qui souffle du sud, donc des États-Unis. Ça se déroule dans ce contexte-là. Mais j'aimerais savoir comment est venue l'idée d'organiser une semaine de la célébration, c'est quand même votre deuxième. Comment c'est arrivé tout ça?
Oui, c'est monté d'un appel à projet du gouvernement provincial pour lutter contre l'homophobie et la transphobie. Donc, l'année passée, on a eu la subvention, puis on a monté la semaine, on a fait des activités à peu près au même moment dans la session. Puis là, cette année, on n'a plus de subvention, mais le service à la réussite, à la vie étudiante, ont décidé de maintenir la semaine, puis de poursuivre ça à travers les années. Donc, on est très heureux que ça se poursuive de ce côté-là.
Alors, depuis sa création en 1969, donc on parle de l'UQAM, les valeurs associées à l'équité, la diversité et l'inclusion, ça, ce sont des mots bannis aux États-Unis, sont au cœur de la mission de l'organisme, donc de l'université. Comment ça se traduit dans votre mission à vous?
Oui, de mon côté, au vice-rectorat à la recherche, à la création et à la diffusion, moi, mon mandat, c'est essentiellement d'accompagner les chercheurs dans l'implantation de mesures EDI là, dans le cadre de leur recherche. Mais bon, on est deux conseillères EDI pour l'UQAM au complet, donc c'est sûr qu'on aide là, beaucoup.
Vous chômez pas.
On chôme pas, effectivement. Ouais. On a beaucoup de pain sur la planche. On a le bonheur d'avoir une direction, le recteur Stéphane Palage, là, qui milite beaucoup là, pour l'accessibilité là, des études en français. Donc, pour nous, c'est un facteur de réussite qui est majeure, là, donc d'avoir des gens à la direction pour qui ces valeurs-là de l'EDI, de l'inclusion, c'est essentiel. Puis on sait que notre communauté, en fait, on a une très belle diversité à l'UQAM, on est très chanceux. Mm-hmm. Et effectivement, comme vous mentionnez, c'est dans l'ADN de l'UQAM.
C'est une université woke, là, comme diraient certains. Vous me permettez la blague, s'il vous
plaît. Absolument. Absolument. Moi, quand on me dit que je suis woke, je le prends comme un compliment.
Mais pourquoi c'est important de maintenir encore et toujours ces liens avec l'EDI?
Oui, c'est une excellente question. En fait, on le sait de un, au niveau de la recherche, on le sait que d'avoir une variété de cerveaux autour de la table, une variété de situations, on va avoir une recherche qui va être plus performante, plus innovante. Mais outre ça, l'UQAM, c'est quoi? C'est un milieu de vie, c'est un milieu d'études. Notre mission fondamentale, c'est l'avancement de la connaissance. Mm-hmm. Pour l'avancement de la connaissance, qu'est-ce qu'on veut? Bien, on veut le plus de voix diversifiées autour de la table. On va privilégier ces mesures-là pour que toutes les personnes, autant au niveau des personnes employées, parce qu'on est quand même beaucoup à l'UQAM, pas juste des profs, mais il y a des employés aussi. Donc, autant au niveau des mesures pour les gens qui travaillent, que les gens qui étudient, bien, que tout le monde se sente à l'aise, respecté, puis que tout le monde soit capable de développer son plein potentiel. Essentiellement, c'est ça, les mesures EDI.
Alors, pourquoi avoir choisi de vous démarquer du mois des fiertés, qui était vraiment le mois de juin? Vous faites ça au mois de mars-avril. Pourquoi?
C'est sûr que ça va avec le calendrier universitaire.
On s'en doute bien, oui.
Oui, c'est ça, juin, où il n'y a pas grand monde à l'UQAM. Mais on a regardé le calendrier universitaire au courant complet, puis on a choisi le 31 mars de tourner autour de cette journée-là. Parce que c'est la journée de la visibilité trans. Donc, c'est important pour nous.
Ah, ben oui, c'est vrai. On souligne ça aussi à l'heure où l'arc-en-ciel se lève lundi prochain.
Mm-hmm. Ouais.
Ouais. Vous savez ce qui va être à l'horaire la semaine prochaine. parlons de la programmation. Il se passe quoi?
Il se passe beaucoup de choses. Il y a de quoi tous les jours, surtout sur les heures du midi, qui est à 12h30 à l'UQAM. Tous les cours finissent à peu près à cette heure-là.
Puis c'est tellement central, fait que même si quelqu'un qui n'est pas enseignant ou étudiant peut se rendre facilement à l'UQAM par le métro.
Bien, exactement, c'est ça, c'est dans ces eaux-là. Puis ça commence avec une conférence d'ouverture d'Annie Pullen sans façon qui va parler de déconstruire la désinformation autour de l'affirmation de genre pour les personnes trans et les jeunes, surtout mineurs trans et non-binaires. Mmh. On va avoir des panels de discussion aussi portés surtout par des personnes étudiantes avec le groupe Queer UQAM qui participe à toute la programmation, qui va parler du vécu intersectionnel queer dans différents aspects, que ce soit racisé ou
est-ce que dans la diversité. Je sais ce que c'est, je vais te poser la question parce que beaucoup de gens accrochent sur le mot intersectionnel qui n'est pas si compliqué que ça. Qu'est-ce que ça veut dire?
La vision de l'intersectionnalité, c'est surtout de vivre à la jonction de plusieurs identités. Donc, de vivre l'oppression par plusieurs endroits.
D'être une personne racisée, queer et peut-être même handicapée, on se retrouve avec triplement donc ostracisée ou marginalisée.
Oui, exactement. Donc, c'était pour ça que nous, c'était important de visibiliser ces enjeux-là.
Oui.
Puis aussi de faire porter les voix qui sont le plus opprimées, donc, puis le plus silencieuses dans le discours public, là.
Excuse-moi, je t'avais interrompu. Il y avait d'autres choses que tu voulais dire sur la programmation?
Il y a d'autres activités. Il y a des ateliers aussi avec le comité de soutien aux parents étudiants. On fait une formation sur comment accueillir le coming out de son enfant. On a invité aussi le Réseau des lesbiennes du Québec à présenter leurs espaces, leurs recherches sur les espaces lesbo-queer.
Mm-hmm.
Et on a des ateliers sur la bispiritualité. Puis aussi, la fin de la semaine, on va le célébrer avec une soirée de clôture, avec un micro ouvert, puis une soirée de la recherche, de la création queer et étudiante.
Bon, on va essayer d'aller voir ça tous les jours si on est capable. J'aimerais aussi parler de l'annonce du lancement d'un groupe ressources.
Oui.
Explique-moi ça.
Oui, donc les groupes ressources, en fait, ce sont des regroupements de personnes qui ont des éléments identitaires en commun. Donc, dans ce cas-là, c'est nos collègues
deux S
d'habitude, fait que là, j'étais partie sur...
Ah oui, nous, on l'a francisé ici, oui, avec comme le gouvernement fédéral. Ouais.
Oui, c'est ça, exact. Ouais. Les groupes ressources, en fait, c'est juste un espace qu'on veut sécurisant, donc des gens qui vivent les mêmes enjeux. Les gens vont amener leur lunch, on va manger des cupcakes, puis on va jaser, puis on va être capable là, de tisser des liens, puis renforcer là, cet esprit de communauté-là qui est un peu mis à mal dernièrement.
Je pense que les gens ont besoin de se trouver un espace qui est sain, qui est bienveillant, et de se mm-hmm. trouver aussi des raisons de se célébrer.
Absolument. Ouais, c'est exactement ça qu'on veut faire.
Ah, je vous ai fait de la conclusion de l'entrevue. De toute façon, on arrive à la fin. Merci oui. beaucoup à toi, Evelyne McDuff. Là, je vais le dire en féminin parce que je ne savais pas comment le faire en neutre. Conseillère en équité, diversité et inclusion à l'UQAM. Et aussi Sophie Dansereau, conseillère à l'accueil et à l'intégration au bureau de l'inclusion et de la réussite étudiante. Merci beaucoup d'avoir été là.
Merci.
Pour joindre l'équipe de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, écrivez-nous à heurciel@gmail.com, heurciel en un seul mot, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook et Instagram, @dmchabotauteur, et sur LinkedIn, Denis_Martin_Chabot.
Et en deuxième partie, c'est le retour de notre chronique, de notre segment Culture Queer.
Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Vous écoutez Culture Queer, un regard sur les arts et le divertissement.
Dana Bilodeau, salut!
Salut, salut! Bonjour tout le monde!
Bonjour tout le monde! Allô à notre très cher Brian Saint-Louis à Québec, comment ça va?
Bonjour vous deux, ça va bien?
Oui, très bien, très bien. Ben oui, c'est un petit bout qu'on ne s'est pas parlé, hein?
Ben oui, mais c'est encore l'hiver à Québec. Je ne sais pas pour vous, là. Nous, il neige encore.
Je refuse de reconnaître qu'il y a de la neige. J'ai rangé mes bottes d'hiver, ça fait que je me suis promené en souliers aujourd'hui. Je n'étais pas très fier de moi. Cela dit, on va commencer par toi, Donald. Tu vas nous parler de ces drag queens qui chantent.
Qui chantent et qui font des disques.
Ah oui.
En passant, je voudrais féliciter Mona de Grenoble qui a
oui.
remporté hier l'Olivier quand même. Hein? C'est pas rien,
c'est
l'Olivier
pas rien.
De l'année.
L'humoriste de l'année.
L'humoriste de
Mais
l'année.
C'est vrai qu'elle est drôle.
Mais oui. Total.
Drôle, puis totalement. C'est moi, c'était d'entendre sortir son gros mot en T là, quand elle était très heureuse d'avoir ouais. gagné. On ne dira pas ses ondes de Canal M.
Non.
On va parler de fesses, on a parlé de ça tantôt, mais on ne parlera pas des saintes espèces.
Ouais. Bon, voilà. Et oui, j'ai eu l'idée de vous parler de ça par rapport au lancement tout récent de l'album Flash de Rita Baga.
Oui.
Alors, chez nos voisins du Sud, que l'on appelle les États-Uniens, Bon, le phénomène n'a rien de nouveau puisque la célèbre RuPaul a publié depuis 1988 pas moins d'une vingtaine d'albums et pas loin d'une soixantaine de singles, ce qu'on appelait à l'époque des 45 tours pour les plus vieux. On appelle ça des EP maintenant. Artiste multidisciplinaire, RuPaul a, comme vous le savez sans doute, son émission bien à elle, la RuPaul's Drag Race, qui en est rendue à cette 17e saison. Émission de laquelle proviennent plusieurs autres drag queens qui ont enregistré des albums. Et là, il y en a, je vais vous en nommer quelques-unes. Oui. Il y a eu Alaska Thunderfuck. Et je trouve ça très drôle parce qu'elle a pris en plus comme prénom Alaska. On sait que c'est un état extrêmement républicain.
Oui.
Elle a publié son fameux album Anus, qui est grimpé au troisième rang du palmarès Dance aux États-Unis. Il y a eu également Violette Shakshki, qui n'a pas gravé d'album, mais plusieurs EP depuis 2015, dont son grand succès Jagged, qui s'est rendu jusqu'en 11e position du palmarès Dance. Il y en a eu d'autres également. Il y a eu Adore Delano, qui a lancé 3 albums dans les années 2010. Il y a eu Trixie Mattel, devenue, elle, autrice, compositrice, interprète. Elle a publié 4 albums originaux entre 2007 et 2022. Le dernier en date, celui de Trixie Mattel, était un projet très ambitieux. Puis c'est un disque double intitulé « The Blonde and Pink Albums ». C'était un projet ambitieux, surtout quand on connaît l'état du marché du disque depuis plusieurs années. Il faut vouloir faire un disque aujourd'hui. Hein?
Ouais.
Chez nous, au Québec, Mado Lamotte a sans doute été une précurseur en enregistrant en 1996 son très amusant « Rap à mini-fée ». C'était très drôle. Mais ça,
je me rappelle de la chanson,
ça lui a ouvert les portes à la publication d'un album complet quelques années plus tard, sous étiquette des disques stars quand même, qui s'occupait des carrières de rock voisine, Martine Sinclair et du compositeur André Gagnon. Ouais, c'est ça, toutes les drag queens.
À leur façon.
À leur façon. Le titre du disque de Mado Lamotte, c'est Full Mado, The Remix Album. Je ne sais pas si c'est encore en vente, mais je ne l'ai pas vu sur les plateformes de téléchargement. Sur lequel elle reprend Call Girl de Nanette Workman, Téléphone mon bijou de Plastique Bertrand, Corps à corps de Châtelaine. On a aussi droit sur cette galette à une version française de Love is in the Air de Martin Steven. Elle chante aussi « Dur, dur d'être une drag queen », évidemment sur l'air et le rythme de « Dur, dur d'être un bébé » de Jordi, vous vous souvenez de ça?
Mm-hmm.
Et avis aux intéressés, on peut voir le vidéoclip de cette chanson sur YouTube. Après Mado, il y a eu d'autres drags qui ont tenté l'aventure du disque. En 2015, Michel Dorion a lancé un EP qui s'appelle « Making Up une seule vie », effort qui demeure à ce jour sans lendemain, mais on pourrait en écouter un petit bout.
Oui, on va prendre un petit 20 secondes.
Oui.
Trop peu de temps dans une seule vie. Il me faut 1000 vies en même temps pour faire le tour de mes folies. Comprendre qui je suis vraiment. J'ai beau chercher côté.
Ah, c'est... Mais quand même, c'est un bon petit rythme.
Oui, c'est un bon petit rythme. Et puis, bon,
il y a une belle voix.
Il y a une belle voix. Moi, je l'encourage à continuer. Jusqu'à maintenant, c'est sans lendemain. On verra s'il va s'y remettre un jour. En Gaspésie, il y a une drag queen qui s'appelle Flora Gionnet-Roussy qui a été un petit peu plus loin, elle, en créant Silver Catalano, un pseudonyme avec lequel elle a lancé sa chanson Wave. Elle a participé au spectacle Émergence de Fierté Montréal, au spectacle Fier.es, ensemble de la fête arc-en-ciel de Québec, en compagnie des stars académiciens Annie Villeneuve et Maxime Landry. Tout ceci m'amène donc à vous parler du dernier album paru en date, celui de Rita Baga, qui s'intitule Flash. Rita avait déjà publié quelques simples vers 2016-2017, oui, notamment Fashionista, un texte anglophone sur une musique techno. Mais pour son dernier album, Rita a décidé de créer. Elle ne voulait pas se contenter de faire des reprises. C'est pour cela que Flash contient 10 chansons. 9 d'entre elles sont originales. Elles sont majoritairement francophones, 8 sur 10. Il y en a 7 qui ont été écrites et composées par Rita Baga et son créateur, Jean-François Guévremont, bien sûr. Oui. La seule reprise est la chanson anglophone « Sunglasses at Night » de Corey Hart. Grand succès des années 80. D'ailleurs, c'est la décennie de prédilection de Rita Baga. Je pense qu'on pourrait écouter un petit extrait qui s'appelle « C'est toi ».
Oui.
Faire
place, perdre la face ou se dévoiler pour exister. J'ai fait mon choix, j'y reviens pas. La suite.
Là, il faut savoir que Jean-François Guévremont, c'est aussi un vrai chanteur. Il y a une formation de chanteur, si oui. Je ne me trompe pas.
Oui, oui. Tout à fait.
Ça paraît, hein?
Ça
il
paraît.
A une bonne voix.
Il s'est entouré d'excellents musiciens. C'est un album, donc, aux sonorités électropop qui ont fait la renommée des années 80, sa décennie de prédilection. Il est paru en format physique en passant, pas seulement sur toutes les plateformes numériques. Il y a de grands noms qui collaborent au disque. Parmi eux, on compte Laurence Nerbonne et Claude Bégin, qui ont respectivement réalisé une pièce de l'album. Dans le cas de Laurence Nerbonne, c'est la chanson « C'est toi » dont on vient d'entendre un extrait. C'est le premier extrait du CD. Alors, c'est un appel à célébrer qui on est à s'assumer pleinement. Rita tenait à ce que sa première chanson soit inclusive dans son texte et ses pronoms, qu'elle reflète pleinement ses valeurs. La date de lancement de cette chanson, c'était le 17 mai dernier, soit la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Ça coulait donc de source pour l'artiste. Alors, conjointement à la sortie de Flash, l'album est sorti récemment, il y a à peu près 3 semaines, je pense. Mm-hmm. Rita Baga en a profité pour donner le coup d'envoi d'une vaste tournée du Québec avec son nouveau spectacle « Spraynet ». Après 2 ans, après avoir conquis plus de 75 000 spectateurs et spectatrices avec son premier One Drag Show qui s'appelait Créature.
Oui, j'avais vu, j'avais trouvé ça vraiment bien.
Ouais.
On est ensemble, on est allé voir ensemble.
Oui.
Ben oui, c'est vrai.
Oui.
C'est incroyable, même pas me lâche. Mais de toute façon, avant que je l'oublie, on va continuer à parler de musique parce qu'on va recevoir dans quelques minutes, tout de suite après la petite indicative musicale, on va recevoir Julie Curley. Qui, elle, republie son premier album.
Ah, très bien.
Confession.
OK.
Alors, on va écouter ça.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Vous écoutez Culture Queer, un regard sur les arts et le divertissement.
Mais là, ce qu'on entend là, c'est un extrait de « Vivre sa vie à l'envers » qu'on retrouve sur l'album « Confession ». Album « Confession », édition 10e anniversaire. Je m'imagine qu'il était dans le premier aussi, mais on va parler de l'édition 10e anniversaire. C'est un album de Julie Curley. Julie, c'est une chanteuse, mais avant tout, c'est une personne engagée dans les communautés de la diversité sexuelle et de genre. C'est une de ses compositions, si vous vous rappelez, les 2 premières saisons de « Là où l'arc-en-ciel se lève », ben, la musique thème était composée par Julie. Confession, Julie, bienvenue à l'émission à nouveau.
Bien, merci, Denis Martin. Merci de me recevoir.
Bien, écoute, on trouvait ça important, d'abord parce que tu es une amie de l'émission, puis on voulait quand même faire connaître ta nouvelle production. Je sais que c'est une réédition, mais quand même, c'est intéressant. On va voir c'est quoi que tu as fait différent. D'abord, confession. Tu avais quelque chose à te confesser, Julie?
Oui, c'est ça. Bien, il y a 10 ans, j'avais beaucoup à confesser, en fait. Donc, cet album-là, il est sorti il y a 10 ans, mais il est sorti en version physique uniquement, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2014, les gens avaient encore des lecteurs CD. Hein?
Oui, oui.
Donc, le numérique commençait, mais pas beaucoup. Fait que cet album-là, 12 pistes, c'est vraiment mon premier. Donc, c'est un album qui est très personnel. Donc, je l'avais sorti à l'époque, pour des raisons techniques, là, uniquement en formule physique. Fait que je me suis dit que 10 ans plus tard, ben, ce serait le fun de leur faire découvrir aux gens, mais de le découvrir d'une autre façon, parce que ça reste confession, mais maintenant, il n'y a plus juste 12 pistes, il y en a 35.
Oh!
Fait que...
en fait, les gens qui prennent la version numérique, ils ont un gros bonus.
Oui, c'est ça, ça. Mais cela étant dit, si la version physique, ça l'intéresse déjà, j'en ai encore. Et le bonus sur les versions physiques, c'est la fameuse pochette.
Oui.
Parce que c'est super le fun, tu sais, d'avoir une pochette. Il y a tout un contexte artistique pour créer des pochettes. C'est un art en soi. Il y a les paroles à l'intérieur. Il y a des photos. C'est l'univers d'un artiste. Puis je trouve ça dommage aujourd'hui que, bon, tu sais, les albums physiques se vendent presque plus parce que... Ben justement, on perd cette forme d'art-là aussi de
faire... Oui, c'est vrai. Mais je vais revenir sur tes confessions. Qu'est-ce que tu as confessé?
Est-ce qu'on fait ça que tu étais une femme de diversité là-dedans?
Oui, oui, ben c'est oui. Ça. C'est sûr que Confession, c'est d'abord un album, j'ai envie de dire, c'est sur les mots de la société, mais c'est aussi sur mes mots à moi que j'avais à l'époque, que j'ai écrit à travers mes mots, finalement. Donc, c'était beaucoup un album sur la rupture amoureuse, honnêtement. À l'époque, j'étais encore avec mon ex quand j'ai fait cet album-là, mais c'est comme si je me confessais à elle aussi. Ça a été quand même un album qui était dédié sur plusieurs pistes. Alors qu'il y avait d'autres pistes qui étaient très, très justement sur les mots sociaux en lien aussi avec la diversité sexuelle. Je pense à Comme un Z dans le désert, Comme un Z dans le désert que vous avez passé d'ailleurs à ton émission, merci. C'est vraiment, pour moi, cette chanson-là, c'est une image ludique et surréaliste de la différence. C'est-à-dire que ça parle d'un zèbre dans le désert qui cherche ses repères. Donc, ça parle de cette idée-là d'être unique, donc d'être différent des autres. Puis, je posais la question dans cette chanson-là, à savoir qui s'est jamais senti décalé ou socialement exclu ou marginalisé. Donc, c'était vraiment une chanson qui se voulait une célébration de la différence.
Et qui est encore plus d'actualité désormais qu'avec tout ce qui se passe présentement.
Oui, c'est ça, en fait. C'est drôle parce qu'au début, tu sais, je me suis dit, est-ce que je sors Confession pour le 10e anniversaire? Puis, tu sais, j'avais peur de me répéter et tout. Je me disais, est-ce que c'est vraiment encore d'actualité? Puis, très ironiquement, oui. Donc, le single radio que j'ai choisi, qui a pas tourné à l'époque, c'est Carence. Puis, c'est une chanson... dans le fond, c'est une chanson très, très banale. Tu sais, ça parle des carences dans un couple, tu sais, qui étaient les carences qu'il y avait dans mon couple à moi avec mon ex-copine. Puis c'est drôle parce que, tu sais, quand je l'ai sorti, cet album-là, il y a 10 ans, j'avais quand même une certaine crainte de dévoiler mon homosexualité quand même si c'était plus accepté que jamais. Puis aujourd'hui, c'est drôle, 10 ans plus tard, avec tout ce qui se passe aux États-Unis, je me suis dit, ben écoute, c'est encore plus d'actualité, puis c'est toujours autant nécessaire, malheureusement, de militer pour les droits des femmes. Parce qu'évidemment, comme nous le démontre l'actualité américaine récente, ben, les droits n'en sont jamais acquis et ils peuvent basculer à tout moment dans la précarité. Donc, je trouvais que ça l'avait encore sa pointe d'actualité. Alors, c'est fun de savoir que tu as écrit des chansons il y a 10 ans puis que 10 ans plus tard, ça...
Ben oui, c'est encore d'actualité. On peut encore les jouer sans aucun problème. Écoute, je trouve ça important parce qu'on parle de diversité sexuelle et de genre. Alors, en quoi cette diversité-là habite ta création artistique ou encore comment ta création artistique habite-t-elle, tu sais, ta vie de tous les jours?
Oui, ça, ben, tu sais, moi, je pense que pour ce qui est de ma musique, je peux pas trop dissocier l'artiste de la personne. Ben, tu sais, je sais pas si tu me suis. Je sais, comme ça s'appelle Confession aussi, c'est un album qui est vraiment honnête. J'avais finalement mis sur papier des choses, puis il y a des chansons qui sont directement liées à la diversité. Tu sais, parce que, par exemple, la dernière chanson de l'album original qui se retrouve sur le 10e anniversaire, c'est « Je préfère les oranges, le fruit défendu ». Puis c'est l'histoire, finalement, d'Adam et Ève, mais revisitée. Parce que, bon, tu sais, dans Adam et Ève, bon, il y avait Adam qui croquait dans la pomme, donc c'était le fruit défendu, donc ils ne pouvaient pas être ensemble. Bon, tu sais, il y a toute une... Bon, je ne vais pas raconter l'histoire de la Genèse puis de la Bible, là. Mais moi, c'est je préfère les oranges. Ça fait qu'au lieu d'aimer, finalement, les pommes ou d'aimer les femmes, bien, Adam, il préfère les oranges. Je ne sais pas si monsieur, il préfère les hommes. Genre... Fait que, tu sais, c'est une chanson, ça se veut humoristique, tu sais, on revisite la Genèse, mais quand je la faisais en spectacle, c'était vraiment drôle parce que, tu sais, justement, il y avait toute une éducation de la différence qui était amenée ici. Fait, tu sais, cette idée-là de la revendication puis du militantisme, même sur scène, ça m'habite par le biais de certaines chansons. Puis, tu sais, que ce soit « Je préfère les oranges » ou « Comme un zèbre dans le désert », c'est des bons exemples. C'est des métaphores de la différence, puis j'aime ça le mettre en chanson.
J'aimerais aborder avec toi un autre point que je trouve important. Bon, je pense que je t'insulterai pas si je te dis que tu n'es pas une artiste du groupe A, qu'on te retrouve pas sur les grands plateaux de télévision. En quoi ça rend ton travail d'artiste encore plus difficile?
Oui, c'est ça. Ben, c'est sûr qu'en tant qu'artiste indépendante, je pense que la difficulté, c'est toujours la visibilité. Puis on parle beaucoup justement des réseaux comme Spotify, comme Apple Music. On dit qu'aujourd'hui, la musique s'est démocratisée, ce qui n'est pas faux. T'sais, il y a 10 ans, lorsque j'ai sorti mon album, moi, je l'ai fait de façon indépendante, je l'ai produit, j'ai payé pour, j'ai fait faire les disques. Aujourd'hui, ça prend, c'est très, très rapide de mettre une chanson sur Internet. Ça va très, très vite. On a tous les outils. On vous explique comment c'est facile. Sauf qu'on se perd dans une mer de gens. T'sais, on se perd dans une mer de gens. Il y en a qui ont extrêmement de talent. Il y a beaucoup de bruit aussi. Il y a beaucoup de bruit sur Internet. Fait que ça fait en sorte que quand tu n'es pas signé par une grande maison de disques, quand tu n'es pas dans les artistes A, comme tu dis, ben tu as beaucoup de difficultés à démarquer. T'sais, ça reste ça. Ça reste beaucoup de difficultés à démarquer sur les plateformes numériques, mais aussi à intéresser les médias, à intéresser les trackers radio. Aussi. Tous ces services-là, ça se paye. Donc, si tu n'es pas connu, ben faut que tu payes cher. Ouais. Ou même quand tu payes, des fois, on ne te prend pas tout simplement. Fait que, c'est difficile.
Ben, on va espérer que cette entrevue-là va permettre à des gens de te découvrir ou te redécouvrir. Je dois arrêter ici. Julie, alors, si on veut se procurer ton album, il est disponible sur à peu près toutes les bonnes plateformes de téléchargement. Et ou encore, on va sur juliecurly.com. Julie Curly, alors, Julie avec IE puis Curly, C-U-R. L-Y, pour ses beaux cheveux, hein, ses beaux cheveux qui sont frisés. Merci, Julie.
Vous écoutez Culture Queer, un regard sur les arts et le divertissement.
Système musical-là, hein, ça dit bien.
C'est cute.
Ben, c'est cute. Hein. Ça nous retourne dans les années 80, justement, je pense qu'on appelait ça la prédilection, la décennie de prédilection de Rita Baga.
De Rita Baga. Ouais. Mais juste avant, notre ami Maurice Bolduc, ici présent, rendons à César.
Notre régisseur,
rendons à César ce qui appartient à César, me rappelait qu'il y a eu Gilda aussi. Hein, j'ai pas pensé d'en parler, mais c'est vrai, Gilda, qui dans les années 60-70 menait des revues, elle a fait des disques.
Elle avait une voix extraordinaire.
Oui, tout à fait. Oui. Elle a imité Marlène Dietrich, etc. Et il y a un disque qui a été réédité en disque compact. Tout ça, c'est peut-être plus en vente maintenant, mais je sais que ça s'est fait en disque compact.
Bien, merci de le souligner.
Oui, important.
Je voulais dire qu'il y avait un autre intervenant dans cette entrevue qu'on vient d'entendre, qui lui aussi aimerait devenir un chanteur. Hein, c'est Gustave, mon chien.
Ah oui, ben oui.
Qui jappe en jappe majeur.
Dans l'entrevue de Julie.
C'est ça. Mais nous, on va aller à Québec rejoindre un autre artiste important de notre émission, Brian Saint-Louis. Salut, Brian.
Bonjour, vous deux.
Bonjour.
Alors, on est de bonne humeur, hein? Ça fait du bien le lundi d'être de bonne humeur.
Ouais, c'est ça, je me sens quasiment mal parce qu'après toutes ces discussions pleines de joie de vivre, je vous arrive quand même avec deux livres.
Bon,
sérieux.
C'est le cassé de party.
Yeah, je suis le descendo.
On t'en voudra pas longtemps. Alors, on va aller parler de Poudreuse de Sophie Leroux. Poudreuse de Sophie Lalonde Roux.
Oui, un bel exercice de diction. Paru chez L'Instant Même, un petit roman que j'avais pas vu, qui est paru l'an dernier, finaliste au prix littéraire des collégiens en 2025, donc cette année. J'avais pas porté attention à ce livre-là quand il est paru. Et puis, finalement, je ne regrette pas d'avoir retourné un peu dans le temps pour le redécouvrir. Une très belle lecture, mais quand même quelque chose d'assez chargé. On va suivre l'histoire de Lou Antoine dans cette histoire-là. Lou Antoine, ça commence, sa mère le jette dehors. Il est à la maison, il habite avec elle. Et là, dans une espèce de tentative désespérée qu'elle a de le forcer à le prendre, qu'il se reprenne en main. Parce qu'il fait dur, il ne sait pas quoi faire de sa vie, il abuse de substances, donc elle décide, tu t'en vas de la maison, je te jette à la porte. Et là, il va errer dans Montréal, il va retomber sur un ancien ami qu'il connaît, Étienne, qui lui va décider de lui offrir une chance il va l'inviter à venir habiter chez ses parents pendant le temps qu'il arrive à se revirer de bord. Étienne, c'est un étudiant en médecine, qui est tout respectable et tout, mais les deux ensemble vont plutôt s'encourager à devenir un peu des partenaires de consommation. Et là, pour arriver avec le sujet de l'émission, il y a quand même une idylle qui va se tisser entre Lou-Antoine et Étienne. Une belle histoire d'amour gay. Malgré tout, ils arrivent à s'aider l'un l'autre pour certaines choses, mais quand même plus à se tirer sur le boc d'autres choses. Et là, va survenir un événement tragique qui va faire que la vie de Lou-Antoine va continuer d'être compliquée pendant quand même tout ce livre-là, qui est une toute petite plaquette, mais tellement une histoire sensible. On parle beaucoup d'itinérance ces temps-ci, de gens qui ont des problèmes de consommation. On a de la misère à être dans le tête, de comprendre exactement comment ça fonctionne, comment ça marche. Là. Ce livre-là, ça arrive très bien à nous faire comprendre à quel point c'est difficile, à quel point on n'est pas encouragé par les petits pas de bébé qu'on peut faire on fait des petits pas, mais on n'arrive jamais à sortir complètement de nos démons. Et puis, là, ça va l'amener, ça, une quête qui va l'amener jusqu'en Gaspésie, finalement. Vraiment une belle sensibilité dans ce livre-là. À petits pas vers la guérison, ça va être long, mais c'est un petit livre. C'est pas lourd, c'est lourd, mais en même temps, il y a un bon rythme, une écriture aussi qui est sans jugement, là. J'ai trouvé ça très, très touchant comme livre. Puis vraiment, c'est ça, il y a tellement de problèmes ces temps-ci avec ces enjeux-là dans la société. C'est bien de se plonger dans la tête de quelqu'un qui vit ces réalités-là.
Bien, surtout que nous, le Canalem, on est vraiment dans le cœur du village. C'est quand même un secteur très fréquenté par les personnes.
Névralgique
par les personnes en itinérance et les personnes qui consomment. Écoute, on va au métro Sherbrooke, puis juste le corridor est rempli
et voilà.
De corps en difficulté. C'est épouvantable. C'est épouvantable.
On est dans le parc Émilie-Gamelin, justement. Là, on est à Montréal dans ce livre-là. Puis on voit que c'est difficile, mais c'est vraiment touchant. On lui souhaite juste le mieux tout le long, puis on espère qu'il arrive, mais on comprend à quel point c'est un long chemin, se sortir de la consommation, de sortir de l'itinérance, de tout ça, là. Et tout ça mêlé avec des petites histoires d'amour gay. C'est pas central à l'histoire, mais on comprend que ça a quand même dû peser un peu pour l'amener justement à la consommation, à avoir des problèmes, le fait de pas se sentir à l'aise complètement avec lui-même. C'est un petit enjeu dans l'histoire, là.
Tu
Donc, très
peux parler à plein de gens qui ont parfois des regards très critiques et pas toujours informés, et pas toujours
oui.
remplis d'humanité sur les personnes qui consomment ou qui sont dans la rue.
Oui, donc, c'est intéressant.
Ouais. Quand nos désirs font désordre de Mathias Quéré.
Oui, alors là, ça, c'est mon livre vraiment sérieux. Un essai que j'ai lu. Vous, est-ce que vous connaissez bien, est-ce que vous étiez bien impliqué dans les années 70-80, dans le
bon, là,
début?
Je quand même, on va rectifier quelque chose. Des années 70, j'étais pas majeur.
Non,
et
moi non
plus. J'étais pas gay non plus. Alors là,
ben,
on va...
Moi, je l'étais, mais j'étais pas majeur.
Ben, je connaissais pas ça, c'était quoi d'être gay. Je savais pas que d'être gay, c'était d'aimer les garçons.
Ah.
Si on me l'avait expliqué, je l'aurais su bien d'avance que j'étais gay. Mais qu'on continue.
Là, je vous laisse pas bien sûr à large pour les auditeurs. Est-ce que vous étiez impliqué dans ces milieux-là?
Je pense que Maurice, qui est beaucoup plus vieux que moi, non, il a le même âge que moi. Il va pas réagir. Vas-y, je vais pas t'interrompre, Brian.
Donc, Mathias Quéré, c'est l'histoire une histoire du mouvement homosexuel en France. C'est paru chez Lux Éditeurs. Je pensais que ça allait être un ouvrage très, très... circonscrit là, pour un lectorat très petit, mais je suis allé dans une librairie en fin de semaine, puis je l'ai vu une grosse pile sur le bord du comptoir. Donc, quand même, c'est un livre qui est peut-être appelé à être lu par beaucoup de monde, mais c'est un livre quand même là, sérieux. On va en France, puis on voit vraiment les débuts du mouvement gay, comment ça se passait. Et là, on remonte vraiment dans le temps. C'est ça, le début des années 70. Le moment où la France, comme un peu partout, le pris avec des lois ou des personnes avec une moralité douteuse, sans guillemets dans ma voix ici, là, pouvait perdre son emploi, où il y avait des lieux de rassemblement illégaux, il y avait des rafles de police. Les gens se rencontraient dans des pissotoirs. On était un peu dans n'essuie jamais de larmes sans gants, justement, là. Cette espèce de lieu de rencontre. Là, on remonte là, aux premières associations universitaires et là, on va suivre vraiment. C'est un livre qui est assez sérieux. On va suivre les déclinaisons de toutes les associations qu'il y a en France, du mouvement qui s'est fait à Paris, en région. Là, on va suivre un peu comment les homosexuels, les lesbiennes, les groupes mixtes ont pris leur place. On sent bien, là, il y a des préoccupations très modernes dans ce livre-là, de bien expliquer le rôle des femmes, de bien expliquer comment les lesbiennes étaient présentes, que c'était pas seulement des mouvements de gays. Ça, on le sent tous. Mais beaucoup, donc, c'est ça, on est dans. Il y a peu de moments où on est vraiment plus dans un détail qui nous amène dans une lecture passionnante. Un livre aussi très franco-français, là. Du vocabulaire, par exemple, qui est étrange. On parle souvent de PD, de Gwyn. Et c'est pas péjoratif, c'est comme si c'était du langage commun pour eux. On
Mais
parle aussi
en France, ils ont réclamé ces mots-là, un peu comme queer aux États-Unis. Ils ont réclamé PD et Gwyn. Il y a une émission de radio qui s'appelle Gwynement Vôtre à une radio en France. Alors, je pense qu'ils ont un peu dans leur humour aussi caustique.
C'est bien que tu parles de radio parce que justement, on va parler des médias qu'il y a eu. Il y a beaucoup de journaux en France qui ont eu lieu. Il y a aussi la radio qui a pris énormément de place. On est à une émission de radio qui parle de réalité queer. Donc, c'est bien de voir que ce médium-là est toujours important parce que c'est gratuit, c'est accessible à tous, tout le monde peut écouter, ça ouvre des horizons. Ça a été très important en France. Mais c'est ça, certaines petites surprise, on a le ton franco-français, là, on parle beaucoup de gauche et de droite, du moment où les conservateurs ont repris le pouvoir en France au début des années 80, qui a amené plus de droite. Ça nous fait écho à maintenant, hein, parce qu'on sent que quand les conservateurs reviennent au pouvoir, des droits qui ont été durement acquis, ça peut disparaître rapidement. Donc ça peut nous rappeler que l'histoire, ça ne fait que se répéter. Puis ça nous mène ça jusqu'aux années SIDA, où on voit aussi que ben, les associations qui existaient avant ont de la misère à actualiser un peu leurs revendications, leurs messages, parce que c'est des nouvelles réalités qui, à ce moment-là, frappent la communauté queer. Donc, un livre très sérieux. Je me sentis un peu loin, mais pour l'histoire, pour le bagage, c'est important de se rappeler de nos histoires, de nos combats, de tout ça, pour savoir, si, en plus, si vous avez vécu ça, si vous avez été dans des organismes communautaires aussi, vous allez vous reconnaître dans ce livre-là. Donc, intéressant pour l'histoire, beaucoup. Donc, « Quand nos désirs font désordre », c'est paru chez Lux Éditeur.
Merci beaucoup, Baron Saint-Louis. Merci beaucoup, Donald Bilodeau.
Merci à toi.
Pour joindre l'équipe de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, écrivez-nous à heureciel@gmail.com, heureciel en un seul mot, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook et Instagram, @dmchabotauteur, et sur LinkedIn, Denis trait d'union, Martin trait d'union, Chabot.
Alors, c'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 109 du 24 mars 2025. Merci à l'équipe Goléric Trobe et Marie Massé à la recherche. Merci à Maurice Bolduc à la régie. Et puis, merci à Jean-Sébastien Laliberté, chef de diffusion, Philippe Lapointe, directeur d'antenne, et Marjorie Théodore, qui est présidente et directrice générale de Vue et Voix, Canal M. Je m'appelle Denis Martin Chabot. Merci d'être là.